contretemps. Une émission de Canal Academy, Virginia Crespo et ses invités.
Bonjour et bienvenue sur Canal Academy devant les micros de Temps contre Temps, une émission qui reçoit aujourd'hui pour vous Henri Amouroux. Henri Amouroux qui n'est plus à présenter, qui est né à Bordeaux, qui a participé à la fondation du journal Sud-Ouest où il a tenu une chronique littéraire pendant près de 14 ans. Correspondant de guerre, il a effectué des reportages au Vietnam, en Israël, en Algérie notamment. Il préside depuis 1985 le prix Albert Londres. Il est l'auteur notamment de la vie des Français sous l'occupation. Il est membre de l'Institut. Il a été élu en 1978 à l'Académie des sciences morales et politiques. Henri Amouroux, près de vous aujourd'hui, deux jeunes étudiants de l'École nationale de journalisme, de l'École supérieure de journalisme de Paris, rue de Tolbiac, Soraya Benzidane. Bonjour Soraya.
Bonjour.
Vous avez 23 ans, vous êtes en deuxième année de cette École supérieure de journalisme.
Oui, c'est ça.
Alors, vous dites vouloir vous spécialiser notamment dans la presse écrite et vous vous intéresser à la politique internationale et notamment au conflit israélo-palestinien. À vos côtés, Mathias Blamont. Bonjour Mathias.
Bonjour.
Toujours donc élève étudiant de cette même école. Vous avez une spécialité qui se dessine, c'est la radio.
Absolument.
On demande une spécialité à partir de quelle année ?
C'est la troisième année. La troisième année d'études est consacrée à l'étude d'un média particulier et depuis très longtemps, la radio me passionne.
Et les affaires internationales et l'écriture également.
Oui, donc, les mystères de l'écriture qui sont
très bien. Donc vous allez pouvoir adresser toutes vos questions aux professionnels du reportage que nous avons avec nous, Henri Amouroux. Vous avez commencé par la critique littéraire.
Hein. Non, pas du tout,
Bon, avec Marcel Jouandeau, Henri Bosco, Marcel Arland,
oui,
Daniel Rox, François Mauriac, Jean Giono.
Oui, où avez-vous trouvé ça?
Dans des bios très bien faites.
Le problème, c'est le problème de la libération. Bon, je suis la génération qui avait 20 ans, 19 ans d'ailleurs, 19 ans à la guerre. Et puis il y a eu la libération. La libération, c'est une révolution. C'est pas compliqué. Jamais je n'aurais eu la critique littéraire à 25 ans. D'abord, il n'y avait pas de papier. Alors, on ne pouvait pas avoir de critique, etc. Dans un journal qui était réduit à une feuille recto-verso. Une feuille recto-verso. Ça, comme ça. Pof, pof. Bon, donc, il n'y avait pas. Après, le papier est revenu en 45, 6, 47, un peu de papier. Et ça m'intéressait beaucoup. J'ai fait la critique littéraire. Je n'aurais jamais eu ça à 27 ans. Impensable. Il fallait attendre d'avoir une barbe, des moustaches, je ne sais pas quoi. D'avoir 50 ans, 45 ans.
Mais pourquoi l'idée du journalisme alors ?
Pardon ?
Pourquoi l'idée du journalisme ?
Mais je faisais la critique littéraire et le reste aussi. La critique littéraire, je la faisais pendant mon jour de repos. On n'avait pas de jour de repos. Le RTT était inventé. Les 35 heures étaient dans les limbes. Non, rien du tout de ces stupidités. C'était... Vous savez, celui qui travaille 35 heures perd la moitié de sa vie. Hein. Bon, alors, hein, pas compliqué. Donc, oui.
Mais alors justement, quel souvenir vous gardez de cette période très exceptionnelle qu'a été la libération
Mais la libération, ça a duré quelques semaines et après il y a eu la post-libération.
Alors, pour la presse justement, comment ça s'est passé ?
Eh bien, ça s'est passé, il y avait 7 journaux à Bordeaux. Il fallait d'abord être... Alors là, c'est un coup de chance, il fallait dans le journal qui allait survivre. Hein. Il y en avait 7, vous savez bien qu'il y en avait 6 qui allaient mourir, même si on ne le savait pas. Quand on est jeune, on ne sait pas, on ne prévoit pas la mort quand on est jeune. C'est la mort des autres, mais pas la sienne. Donc il faut être dans le journal qui va survivre, c'est ce qui m'est arrivé. Bon, après, je vais vous dire, c'était très simple. Il faut nager. Si vous êtes jeté dans la piste, dans l'eau, et vous nagez. Et vous avez, moi, les vacances, ça ne m'intéressait pas. Je voyageais, je faisais les reportages. Le journal les prenait. Mon jour de repos, c'était le mardi, je me souviens bien. Mon jour de repos, pendant mon jour de repos, je faisais de la critique littéraire. Et le reste du temps, je travaillais au journal. J'ai créé un journal parce qu'on pouvait créer un journal très facilement, très vite. Et puis, il mourait d'ailleurs très vite après. D'ailleurs. Mais j'ai créé un journal parce que j'étais au MRP, au Mouvement Républicain Populaire, mouvement de Georges Bidault, de Robert Schuman, enfin bref, ce mouvement de chrétien-démocrate qui existait à la Libération et qui a été très important. C'est la égalité de puissance avec le Parti communiste qui était le plus important, tantôt l'un, tantôt l'autre, plus important que le Parti socialiste. J'avais donc créé un journal du soir. Tout ça, c'est l'effervescence, le bouillonnement d'une révolution.
Mais alors, ce bouillonnement, justement, vous vous souviendrez plutôt d'une atmosphère de règlement de compte après la guerre, de délation, ou plutôt d'une atmosphère de perspective d'avenir ?
Non, il y a eu... C'est très bien. Non, c'est très bien de me poser cette question, vous avez tout à fait raison. Non, il y a eu... avant... Et après, ça a duré 6 mois avant, 6 mois après. C'est le bordélique, si vous voulez. Bon, avec en effet des tas d'excès, bien sûr. Et bien après, ça a repris son rythme de croisière. Il a bien fallu créer des journaux, trouver des lecteurs. C'est dans un domaine où il y en avait 7 à Bordeaux. Mais il y en avait 7 à Marseille, il y en avait 7 à Rennes, il y en avait partout. Donc, un problème de concurrence. Et là, ben, c'était à chacun de trouver ses lecteurs.
Je voudrais revenir sur une citation que vous aviez dite lors d'un entretien avec Jacques Jaubert qui remonte en 79, qui disait « Le journalisme nous apprend à ne pas être ennuyeux, on peut très bien raconter des choses sérieuses de façon vivante, intéressante ». Est-ce que vous pourriez développer davantage cette idée ?
Écoutez, c'est fondamental. Vous expliquez à 99,5% de vos lecteurs ne savent pas de quoi il s'agit. Donc il faut leur expliquer, leur faire comprendre avec des images. Mais 0,5, c'est. Et aux yeux de ces 0,5, il ne faut pas paraître idiot. La grande difficulté du métier, c'est ça. C'est d'être clair vis-à-vis de ceux qui ne savent pas et de ne pas paraître idiot vis-à-vis de ceux qui savent. Que ceux qui savent se disent, oui, bon, il est obligé, naturellement, ou elle est obligée, elle est obligée de vulgariser. La vulgarisation n'est pas quelque chose de bas, ni de vulgaire, ni de quelconque. La vulgarisation, c'est quelque chose de beau, puisque vous apprenez des choses que vous savez, en principe, à ceux qui ne savaient pas. Qui ne savent pas. Donc, il faut, vous comprenez, que vous appreniez, que vis-à-vis de ceux qui connaissent, et il y en a toujours quelques-uns qui connaissent, ceux-là comprennent que vous avez travaillé pour vous mettre à la portée de ceux qui ne savent pas. Voilà.
Henri Amouroux, là vous parlez de la communication, j'écris pour communiquer avec l'autre. L'écriture est souvent considérée par le romancier, par l'auteur de théâtre, comme un acte en quelque sorte libérateur par rapport à lui-même. Hein. Il se décharge, ou alors comme un acte de transmission. Là, je parle de transmission d'un savoir, d'une connaissance, quand on parle des historiens, des scientifiques, des philosophes. Mais en tant que journaliste, on communique et on veut communiquer. Pourquoi ? Et on veut s'adresser à qui ? On veut communiquer pourquoi dans le journalisme, à la base ? Pour vous, personnellement, c'est venu comment ? Familialement, on vous en a parlé ? Est-ce que vous avez découvert ça dans les livres ? Comment ?
Non, on veut communiquer. Pour moi, ça a toujours été, je l'ai dit souvent, je le répète, pour moi, quand j'avais 13 ans, 14 ans, c'est le seul métier que j'ai voulu faire. J'ai voulu écrire des articles, voyager, faire des voyages, écrire des livres. J'ai jamais voulu être directeur de journal, je suis devenu... Ça m'a passionné. La gestion m'a passionné, parce qu'elle est simple, contrairement à ce qu'on peut croire. Mais la gestion m'a passionné, mais j'ai jamais voulu... J'ai été rédacteur en chef, c'était pas mon ambition. Mon ambition, c'était d'y aller voir, et c'était de dire ce que j'avais vu, de faire comprendre ce que j'avais vu. Sauf ça, bon, à un moment donné, parce que j'habitais Périgueux, chez ma grand-mère habitait en face de la place Francheville à Périgueux, il y avait un cirque qui venait se mettre il y avait 3 fois par an un cirque. Alors, sauf être artiste de cirque à cause des trapézistes, de la trapéziste peut-être, je n'ai jamais pensé à autre chose qu'un journaliste trapéziste. Évidemment, c'était un rêve, je ne l'ai jamais réalisé.
Ah, oh, c'est de la voltige aussi, le journalisme, non ?
Oui, bien sûr.
Alors justement, en ce qui concerne l'écriture, quels sont vos secrets, si vous en avez ? Comment appréhendez-vous la rédaction d'un livre ? Et quels sont vos modèles, vos inspirations ?
Le secret, je crois qu'il n'y en a pas, vous savez. D'abord, vous me demandez ça quand je suis au bout de ma vie, à la fin de ma vie, les secrets, il n'y a pas de secret. La vérité, vous avez cité quelque chose de tout à l'heure, une phrase que vous avez bien voulu m'attribuer. Oui. Il n'y a pas de raison d'être ennuyeux pour intéresser les gens. Il faut s'y intéresser. Un livre, c'est une grande construction. Un livre, c'est des années de travail, quelquefois 3 ans, 4 ans de travail, un livre. Il faut le porter en soi, il faut y croire, il faut y penser tout le temps, dans la rue, quand vous marchez, quand vous, qu'il vous occupe, qu'il vous habite, vous comprenez ? Et puis ça dépend, il y a plusieurs types de livres. Un roman, un livre d'histoire, un livre d'histoire, c'est pas la même chose. Un livre de reportage et un livre d'histoire, c'est pas la même chose, c'est pas pareil. Quand j'ai écrit des livres d'histoire, je voulais écrire des romans, je voulais vous faire des confidences. J'ai écrit des romans. Puis je me suis aperçu que dans les romans, je mettais beaucoup de ma vie personnelle, naturellement. Bon, je me suis dit, ça vaut pas la peine de continuer à écrire des romans, je ne suis pas un grand romancier. Et un roman, ça peut toucher, ça fait de la peine quelquefois, parce qu'on raconte sa vie personnelle. Donc, je suis passé à l'histoire. Si vous voulez, ce chemin, je pouvais m'engager dans la voie romanesque, j'aurais pu. Et puis, je me suis passionné pour l'histoire, parce que je me suis dit, on ne s'intéresse pas à la vie des Français. On s'intéresse pas à la vie des autres. Et j'ai écrit mes premiers livres, qui sont d'abord été des livres qui étaient la suite de mes livres, de mes reportages. C'était la suite. Continuer, comme on continue au bout de la rue, on poursuit, c'est un boulevard après.
Voilà. Oui. Mais alors justement, il y a eu les livres, il y a eu évidemment les romans, l'histoire, mais il y a eu aussi les journaux. Et deux grands journaux qu'on comptait dans votre vie, c'est Sud-Ouest et François.
Non, c'est Sud-Ouest.
Surtout Sud-Ouest.
Oui, bien sûr, naturellement.
Et alors, et surtout sur Sud-Ouest, justement, quel 33... regard vous portez aujourd'hui sur le journal ?
Écoutez, je vais vous dire, quand je suis parti de quelque part, je ne retourne pas. Je ne veux pas être changé en statut de sel.
Alors, ça vous intéresse pas aujourd'hui ?
Non. Ce qui s'y passe, je n'y suis plus, je ne dirige plus, je n'y viens, ce n'est plus moi. Et j'ai horreur des gens qui reviennent après, 2 ans après, ils sont partis à la retraite quelquefois. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais directeur ou rédacteur en chef. Des gens qui revenaient pour quoi ? Pour dire que vous êtes bien et que les autres sont mauvais. Non, non, non. Je me parle. Quand j'y suis, je m'investis à plein. Quand j'y suis pas, c'est fini.
D'accord.
Bon, il y a deux choses, il y a cette vie. La vie sentimentale est une vie différente. Vous pouvez rester très bien avec des gens que vous avez pu aimer beaucoup, etc. C'est autre chose, la vie. Mais la vie professionnelle, pour moi, je ne suis jamais revenu dans les journaux où je ne suis pas. Jamais, c'est fini. Et je ne me suis jamais mêlé de critiquer ceux qui m'ont succédé. Ils font comme ils veulent, j'en pense ce que je veux, mais c'est leur affaire.
On parle souvent des problèmes journalistiques en omettant bien souvent leurs qualités. Est-ce que vous pourriez nous donner votre avis en ce qui concerne la force du journalisme et au contraire ses faiblesses, ses défauts qu'elle occupe aujourd'hui ?
La force du journaliste, elle dépend d'abord du journalisme, mais elle dépend aussi du journal. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait malheureusement de moins en moins de titres de presse écrite. Il y en a à la fois moins en moins et beaucoup. Vous allez dans une librairie, vous allez dans un kiosque, vous voyez des centaines de titres. Mais de plus en plus, ce sont des titres spécialisés. Et de plus en plus, ce sont des titres de presse féminine, beaucoup de presse Mimi, moitié. Mais il y a de plus en plus et de moins en moins de presse généraliste, si vous voulez. Le problème, c'est on parlait tout à l'heure de la compréhension. À travers certains articles, on comprend des choses. Je vais vous dire. Un jour, on me demande de faire d'ailleurs à l'Académie, dans la salle de l'Académie, une conférence sur un sujet. La presse et la pharmacie, enfin, les méthodes, les techniques, la médecine, etc. Je suis incompétent, mais je suis totalement incompétent dans ce domaine, mais je suis compétent dans la mesure où je peux travailler sur un sujet, comment la presse présente-t-elle. Et je veux que j'écrivais des banalités. Lorsque, pensant à cette réunion, je suis allé chez mon coiffeur. Et chez mon coiffeur, comme je n'aime pas perdre le temps, j'ai lu un journal et j'ai lu un journal féminin. Et dans ce journal féminin, j'ai lu le récit bouleversant pour moi, qui suis un homme, et qui parle de ses problèmes en homme, c'est-à-dire en égoïste. Le récit d'une dame qui était journaliste, spécialiste de médecine dans une station de télévision. Et elle racontait comment, pour avoir un enfant, ce qu'elle avait subi. Elle avait subi un certain nombre d'examens, puis de méthodes, etc., etc. Et ça avait été atroce. Et ce que les hommes... Ce pourquoi les hommes emploient des mots banals, simples, en pensant que c'est rien du tout, j'ai brutalement découvert et j'ai changé mon texte à travers cette lecture. J'ai modifié mon texte à travers cette lecture, je me suis dit, mais tu es complètement idiot, tu es un homme, tu n'y connais rien du tout, tu ne sais pas ce que cette femme a. Elle racontait ce qu'elle avait subi pendant des années et des années. N'est-ce pas ? Bon. Ce qui importe, c'est de comprendre, c'est de se mettre à la place des autres, d'épouser, de comprendre, d'essayer de comprendre, de voir. L'autre, ben, je vais vous dire, il y a quelque temps de cela, il y a un an et demi, on parlait sans arrêt des internes. Bon. J'ai dit, une salle de rédaction, une conférence de rédaction, j'ai dit, mais il n'y a qu'à passer 24 heures avec un interne, allez, dans le bon Dieu, il n'y a qu'à y aller.
Donc c'est ça en fait, c'est rester au contact avec les gens, rester avec eux, parler avec eux,
alors,
et de témoigner ensuite.
J'ai dit, il n'y a qu'à y aller. Et alors les confrères, chefs de service, rédacteurs en chef m'ont dit, mais Henri, qui ira ? Personne n'ira. 24 heures, ben, j'ai dit, moi je vais y aller. Et alors je suis allé passer 27 heures à Cochin, j'en suis pas mort, puisque j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
Il n'y a pas que là où vous êtes allé, vous avez beaucoup voyagé au cours de votre carrière.
Ah oui, mais là, pardon, j'y suis allé à mon âge maintenant, en fin de cas. Oui,
mais ça a été une part importante de votre vie quand même.
Quoi ?
Vos voyages.
Oui.
Parce que c'était justement pour aller témoigner toutes ces réalités.
C'était pour voir, c'était pour y être, c'était un plaisir d'y être. Quand j'ai connu tous les types de journalistes en Indochine, j'étais plusieurs fois, puis en Israël, j'ai été le journaliste non-juif qui est allé le plus souvent en Israël, et je me suis rendu compte d'une chose d'ailleurs. Une chose. J'y suis allé la première fois en 1950, c'est-à-dire trois ans après la naissance de l'État d'Israël. Bon. J'avais dit à ma femme, qui venait d'avoir notre quatrième enfant, troisième fille, quatrième enfant, je lui ai dit, nous prenons des quatrièmes classes. Parce qu'en quatrième classe, on parle. En première classe, on ne parle pas. Quatrième classe, on parle. Ma femme était d'accord, donc elle était avec 9 femmes et moi j'étais avec 9 types. Bon. Nous étions le seul couple non-juif du bateau qui s'appelait Nagba, qui est allé en Israël. C'est passionnant. Alors ensuite, en Israël, et j'ai mis 3 voyages, j'y suis allé 16 ou 17 fois. J'ai mis 3 voyages avant de me rendre compte de ce que je vais vous dire. On était terriblement séduits parce que qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que recherchons-nous ? Nous recherchons des poissons. Les poissons, ce sont les aventures. Et en Israël, il n'y avait qu'à plonger les mains dans la bassine ou dans l'aquarium et on ramenait des poissons qui étaient autant d'aventures. Donc on vivait avec des gens qui les aventures de ceux qui avaient vécu la tragédie. J'ai vu par exemple à côté de Saint-Jean d'Acre, il y avait 80 ou 90 1950 rescapés du ghetto de Varsovie. Je me souviens aujourd'hui des noms de certains, Myriam Novic, Sukerman, Antek Sukerman. Bon, je me souviens, ça remonte à la surface. Bon, et puis il y avait la Bible. Alors il y avait tout ça. Et au bout de 3 voyages. Je me suis dit, oui, mais tu ne vois que la moitié de l'orange, ou la moitié de la pomme, ou la moitié du fruit, tu ne vois pas les Arabes. Car on ne voyait pas les Arabes, et on ne pensait pas aux Arabes. Et je me suis dit, mais ça va plus, ça va pas. Tu fais des reportages uniquement parce que tu vas au plus facile, le plus facile étant ce que t'apporte, ce que m'apportaient tous les gens qui étaient présents et qui avaient vécu des aventures bouleversantes. Chacun pouvait être le sujet d'un roman.
Et justement, quel est le meilleur souvenir que vous gardiez de ce passage en Israël ?
Oh, je garde beaucoup de souvenirs. Mais le meilleur souvenir, ça ne veut pas dire grand-chose pour un journaliste. Le meilleur souvenir peut être dramatique, vous savez. Non, je ne sais pas.
Mathias ?
Non, Israël, c'est...
Le meilleur souvenir, c'est quand on va le plus loin. Le meilleur souvenir, c'est quand on va le plus loin. Le meilleur souvenir, c'est peut-être quand on prend le plus de risques physiques, étant quand on s'en sort. Le meilleur souvenir... Non, il n'y a pas comme ça. C'est le souvenir le plus fort, c'est le souvenir des gens qui vous ont le plus marqué. C'est le souvenir des moments où vous avez cru approcher d'une certaine réalité, pas la vérité. La vérité, c'est de la blague, elle n'existe pas. Mais la réalité des hommes.
Alors, Israël et sa région, ça, c'est une cause qui vous a toujours passionné.
Non, moi, c'est pas une cause, non.
C'est une région, en tout cas, passionne et qui vous intéresse.
Et pourquoi
sur laquelle vous avez beaucoup écrit.
Pourquoi vous n'avez pas remarqué qu'il y a beaucoup plus de reportages sur Israël que sur la Suisse? Vous n'avez pas remarqué ça?
Ah, mais si, on remarque bien. Justement, c'est pour ça qu'on
a... Vous avez bien remarqué ça. Il y a beaucoup plus de reportages sur Israël que sur la Suisse.
Mais justement, Alors justement, ces dernières semaines, il y a un plan de paix qui a été proposé à Genève pour relancer le processus de négociation. Ouais. Quel est votre sentiment sur ce plan? Ça vous séduit ou ça...
Ce que ça me séduit, ça n'a aucune importance.
Non, mais votre avis...
J'avais un rêve. Tous mes confrères m'ont dit qu'il était irréalisable. Je vais vous dire, j'avais un rêve. Vous posez, c'est très bon, très bien ce que vous posez comme question. Le rêve était le suivant. Je suis président du jury du Pôle Albert Londres, ça fait 20 ans l'an prochain, et j'ai essayé de remettre les pas du jury dans les pas d'Albert Londres. Nous sommes allés, j'ai amené le jury, enfin, il s'est amené tout seul, mais enfin, j'ai mis sur pied un voyage en Guyane. Passionnant de remettre les pas sur les pas d'Albert Londres en Guyane, parce que vous jure que le bagne, qui reste le bagne, les moignons de bagne, hein, c'est ce que c'est. Moyen. Les débris de bagne, c'est toujours très émouvant, très bouleversant aujourd'hui encore. Après, comme Albert Londres avait fait le tour de France, parce que quand il partait, il fallait 6 mois entre l'aller et le retour et le voyage. Alors il avait une petite amie à l'époque qui ne voulait pas le voir partir 6 mois. Donc il a fait le tour de France, mais le tour de France, c'est 3 semaines. Voilà. Donc il était là le reste du temps. Donc nous sommes allés sur le tour de France, nous avons fait 4 étapes des Alpes, formidable, passionnant. Et après, nous sommes allés à Reims, Pascal Berlonde a parlé de son premier reportage signé, c'est en 1914 au moment du bombardement de Reims, de la cathédrale et de la ville. Et puis après nous sommes allés en Russie, parce qu'il avait fait un livre sur la Russie. Et puis nous sommes allés, nous allons en Chine l'an prochain.
Mais Henri Leroux, vous répondez pas à ma question?
Oui.
Je vous parle du plan de paix qui a été
attendez,
présenté.
Attendez, j'y arrive à votre plan de paix. J'y arrive. Mon idée... était justement de diviser le jury en 2 morceaux, 2 parties, et d'aller en Israël, parce que Albert Londres est allé souvent en Israël. Il a fait un livre qui s'appelle « Le Juif errant est arrivé ». Je divisais le jury en 2, moitié chez les Arabes, chez les Palestiniens, moitié chez les Israéliens. Et après, le jury se réunissait et décidait de voter sur la ligne verte. Et mon idée de... généreuse et vicieuse, généreuse dans son ambition, vicieuse dans sa réalisation, c'était d'obtenir des deux côtés 15 jours de trêve. 15 jours de trêve. Accordés par les Palestiniens, accordés par les Israéliens. C'est ça, Genève. C'est ça. Accordés. J'y suis allé souvent, je me dis, mais est-ce que c'est pas le royaume franc de Jérusalem. Vous savez ce que c'est que le royaume franc de Jérusalem, j'espère. Vous savez ce que c'est que le royaume franc de Jérusalem? Sans rien. Vous savez ce que c'est que le royaume franc de Jérusalem?
Non, il faut vous expliquer.
Vous allez nous dire.
Eh bien, il faut connaître l'histoire. Quand vous irez dans un pays, apprenez l'histoire. Si vous arrivez, si vous connaissez ni l'histoire, ni la géographie, ni rien du tout, vous êtes paumé. Et vous ne comprenez rien. Les hommes, ce n'est pas des blocs de cailloux, des cailloux comme ça. Non, pas du tout. Les hommes, ils ont une histoire. Ils ont des passions. Ils vivent à travers leur passé, leur tradition familiale. Alors, le royaume franc de Jérusalem, figurez-vous, c'est après la première croisade. Vous avez entendu parler de la première croisade et de la prise de Jérusalem. Bon, un froid de bouillon. Dans les croisés français, allemands, les anglais aussi, mais enfin, les anglais ont colonisé l'Inde bien longtemps plus tard, ils arrivent, ils s'installent là, ils vont créer, avec Baudouin d'ailleurs, qui sera le premier roi de Jérusalem, ils vont créer un royaume français. Et ça va durer 1,5 siècle. Il reste toujours des monuments, des débris gigantesques, magnifiques, qu'on vit à Saint-Jean d'Arc. Vous avez entendu parler de Saint-Jean d'Arc, le château des Templiers, tout ça existait. Et ça a duré 1,5 siècle. Évidemment, pour ravitailler, pour venir au secours. Il y a eu 9 croisades, je me permets de vous le rappeler. Évidemment, pour venir au secours, il fallait beaucoup plus de temps qu'il en faudrait aujourd'hui, bien sûr. Mais il y avait un problème qui a dominé comme il menace aujourd'hui, c'est la démographie. La démographie. C'est le problème de la démographie, vous comprenez? Et donc, vous avez Israël qui est là, avec une opposition terrible, parce que d'un côté, il y a la culture, la civilisation, l'argent, les gens, et puis d'un autre côté, quand vous survolez, vous voyez tout de suite quand vous survolez la différence, les différences de niveau. Je suis allé à Gaza en 1950, Gaza devait avoir, je ne sais pas moi, 300 000 habitants, 400 000 habitants, qu'est-ce qu'ils faisaient? J'étais là, dans une enclave à Gaza. Ils faisaient du football, de la politique et des enfants. Ils font toujours du football, de la politique et des enfants. Mais à force de ne pas faire des enfants, ils sont passés de 300 ou 400 000 à 1 million. Ça change tout. Donc le problème d'Israël, j'ai écrit 4 livres sur Israël, dont 2 romans. Le second roman s'appelait « Le ghetto de la victoire ». Et parce que le ghetto de la victoire, c'était bien pour montrer qu'il y avait un problème d'enfermement dans ces limites. On n'avait pas encore construit le mur. Quand j'ai écrit ce roman, je ne sais pas, moi, en 1956 ou 7, je ne sais plus. J'ai grassé, je crois. Ce ghetto, ça traduisait l'enfermement de gens qui sont prisonniers, mais qui ne peuvent pas se mêler aux autres. Et voilà, donc ce problème d'Israël m'a passionné.
Voilà, et nous allons inviter les auditrices et les auditeurs de Canal Académie, de cette émission Temps contre temps, de se reporter aux ouvrages que vous avez écrits sur Israël notamment. Merci d'avoir participé à ce temps de parole avec nous. Merci à Soraya Benzidane et à Mathias Blamont qui ont donc participé à cette émission dont l'invité était l'académicien Henri Amouroux. Merci à tous les trois.
Canal Académie.
Canal Académie.
Bonjour, c'est Christa Leuc. Retrouvons-nous tous les jours au Carrefour des Arts sur Canal Académie. Les expositions en Europe, en France et dans le monde, l'art plastique, les concerts. Quel que soit le pays d'où vous nous écoutez, il se passe toujours quelque chose. Invitation à sortir, découvrir, apprécier, humer l'air du temps artistique. Parce que les artistes n'ont pas de frontières, rendez-vous au Carrefour des Arts. Votre agenda culturel sur Canal Académie.